France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Où va l'argent public qui finance les écoles privées? Impossible de le dire précisément, concluent deux députés qui signent un rapport choc. Très peu de contrôle selon eux, ils proposent un système de sanctions en cas de dérive. Explication à suivre. Une partie de la France sous l'eau en ce lundi de Pâques. Dans le Gard, le maire de Bagnols-sur-Cèze ferme ses ponts submersibles, mais certains automobilistes n'hésitent pas à forcer le passage.
Quand je vois ça, j'ai juste envie de dire à cette minorité, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez? Vous mettez vos vies en danger, mais en plus, si ça se passe mal, vous allez mettre la vie en danger de dizaines de personnes derrière.
En Indre-et-Loire, c'est la décrue pour la Vienne. Nous verrons cela. Nous serons aussi dans les Alpes de Haute-Provence. Nouvelle recherche ce matin, après la découverte d'une partie du corps du petit Émile, samedi. À suivre encore, le cannabis récréatif légalisé en Allemagne. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Vous êtes à Berlin pour Inter. Cela s'est vu dès cette nuit, Sébastien.
Ah oui, 1500 Berlinois ont célébré l'événement à minuit pile la nuit dernière. Cette légalisation était très attendue. 4,5 millions d'Allemands sont des consommateurs réguliers de cannabis, mais la loi suscite aussi des inquiétudes.
À tout de suite, en ce 1er avril, nous nous demanderons également si c'est la fin des poissons d'avril dans la presse, victime des fake news dans une vingtaine de minutes. Les Jeux avant les Jeux, notre rendez-vous olympique, la guerre entre le foot et les JO aujourd'hui. À 13h30, le succès de la comédie musicale Mamma Mia, joué à nous depuis quelques jours à Paris. Succès toute génération confondue. Si vous êtes fan, vous nous appelez 01 45 24 7000. 13h45, une semaine dans la vie des frontaliers lorrains qui tous les jours vont travailler au Luxembourg. Nous serons avec Jessica.
J'ai déposé mon CV le matin. Le lendemain, je commence à un CDI direct. Donc moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, on est dans un autre monde. Alors qu'en France, je ne trouvais pas de travail.
13h50, c'est la France. Bayonne, capitale française du chocolat, nous dira Thomas Snegaroff. Et puis juste avant 14h, la romancière Nina Bouraoui demande Benjamin Biolay à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Touché à l'enseignement privé, le sujet est explosif en France. Il y a 40 ans, 1984, le projet de loi Savary visant à l'intégrer dans un grand service public avait déclenché des manifestations monstres. Résultat, démission du ministre et retrait du texte. Là, nous en sommes au stade d'un rapport parlementaire. Deux députés, l'un Renaissance, donc la majorité, l'autre de la France Insoumise, demandent davantage de contrôle sur les 7500 établissements privés sous contrat dans notre pays. Enseignement catholique à 96%. Ces établissements sont largement financés par l'argent public, mais sans savoir, disent les parlementaires, comment il est ensuite utilisé. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Ce rapport sera présenté en détail demain, mais on en connaît déjà les grandes lignes. Et il est sévère pour l'école privée et ses 2 millions d'élèves.
Oui, il pointe en effet le manque de contrôle. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà signalé un rapport de la Cour des comptes en juin l'année dernière. Le contrôle pédagogique existe. Les professeurs du privé sont inspectés comme leurs collègues du public. Mais selon le député France Insoumise Paul Vanier, des pratiques de détournement de fonds peuvent exister tant les contrôles financiers sont inexistants, en particulier pour l'enseignement catholique. Il note que les établissements musulmans sont beaucoup plus contrôlés que les catholiques, et il estime qu'il y a une différence de traitement entre le lycée Averroès musulman et Stanislas. Le rapport dénonce également une certaine opacité des financements. Le budget de l'État est clair, c'est le montant du salaire des professeurs des établissements privés sous contrat, mais le financement des collectivités territoriales est beaucoup plus flou. Certaines dépenses sont obligatoires, d'autres facultatives. Les auteurs du rapport chiffrent de 11 à 12 milliards d'euros la manne publique, mais sans pouvoir préciser le montant exact.
Et c'est deux députés suggèrent davantage de contrôle et de sanctions.
Oui, pour obliger le privé sous contrat à respecter le droit des enfants et lutter contre les discriminations, les établissements privés favorisent la ségrégation sociale selon les parlementaires, qui s'appuient sur des chiffres officiels. 20% des élèves étaient issus de milieux favorisés au début des années 2000, c'est 40% aujourd'hui dans le privé. Paul Vanier propose d'instaurer un malus pour pénaliser financièrement les établissements qui pratiquent le tri social. Ils pourraient perdre une partie partie de leur financement public en fonction du profil social de leurs élèves. Son collègue Renaissance, co-auteur du rapport, est plus modéré. Il souhaite simplement un mécanisme incitatif. Les deux députés ne sont d'ailleurs pas toujours d'accord. Ils ne partagent que les deux tiers de la cinquantaine de recommandations qu'ils formulent.
Merci Sonia Princé pour ces explications. Dans l'éducation nationale, toujours, journée de grève demain à l'appel de plusieurs syndicats enseignants et dans certains départements, appel également de fédérations de parents d'élèves. Tous demandent l'abandon de la réforme dite du choc des savoirs, notamment la mise en place de groupes de niveau en 6e et 5e. Mouvement de grève nationale encore à la Poste aussi demain. Là, c'est contre la réorganisation de l'entreprise. À quel moment fermer les routes? À quel moment évacuer un quartier? Ce sont les interrogations des autorités. Ces dernières heures, dans les départements menacés par les inondations, 12 en vigilance orange en Bourgogne, dans le sud-ouest et dans le sud-est, et puis un toujours en rouge, c'est l'Indre-et-Loire, avec plusieurs centaines de personnes évacuées hier soir à Chinon et dans ses alentours. Bonjour Ajra Mohamed.
Ah, bonjour Jérôme.
Finalement, là-bas, la crue a été moins forte qu'annoncée.
Oui, la Vienne a franchi son pic vers 6h ce matin à 5,43 m, loin donc des 7 mètres attendus et annoncés par le site Vigicru. Et la décrue s'amorce tout doucement depuis quelques heures. Pareil pour la Creuse et l'Indrois qui traversent également l'Indre-et-Loire. Alors la vigilance rouge était-elle nécessaire? Le maire de Chinon, l'une des villes les plus touchées, reconnaît avoir connu des inondations bien plus impressionnantes ces dernières années dans sa ville. Mais on n'est jamais trop prudent. Tout un quartier de sa ville a donc été évacué hier soir. Un EHPAD également. Au total, 500 personnes dans le département qui regagnent progressivement leur domicile depuis ce matin. Il va falloir évaluer les dégâts maintenant dans les habitations, voir si des relogements sont nécessaires. À noter enfin 4 communes dans l'est de l'Indre-et-Loire qui restent privées d'eau potable ce lundi.
Autre décision de prudence, cette fois nous sommes dans le Gard, département marqué par des inondations meurtrières il y a un mois.
Oui, c'était la tempête Monica, 8 morts dont un père et ses 2 enfants emportés alors qu'ils venaient de franchir en voiture un pont au-dessus du Gardon. Eh bien, 17 ponts et passerelles submersibles sont fermés aujourd'hui dans le département, notamment dans ce qu'on appelle le Gard rhodanien, la partie qui est traversée par le Rhône, qui risque de déborder par endroits. La préfecture appelle tous les piétons et les automobilistes à la prudence et à ne surtout pas traverser les routes et les ponts barrés.
Alors, certains ponts fermés, barrés donc, Ajra, mais certains automobilistes n'ont pas retenu la leçon des dernières crues. Écoutez le témoignage du maire de Bagnols-sur-Cèze, Jean-Yves Chapelet.
On a un pont submersible, on a fermé la passerelle, qu'on appelle la passerelle de Carmignan, vers 4h du matin. Malgré cela, j'ai quand même, excusez-moi, je vais prendre un terme un peu péjoratif, un abruti qui a réussi à nous couper le cadenas pour forcer le passage avec un coupe-boulon ou une disqueuse, j'en sais rien. Voilà. Quand je vois ça, j'ai juste envie de dire à certains, à cette minorité, parce que c'est quand même une minorité, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez? Vous mettez vos vies en danger, mais en plus, si ça se passe mal, vous allez mettre la vie en danger de dizaines de personnes derrière. Donc c'est complètement inconscient, mais bon, plus rien me surprend par moment.
Le coup de gueule du maire de Bagnols-sur-Cèze que vous avez eu en ligne il y a quelques minutes. Merci à vous, Ajra Mohamed. Prévision météo complète dans une vingtaine de minutes avec Elodie Calac. Ce ne sont pas les intempéries, mais les recherches dans l'enquête autour de la mort du petit Émile qui mobilise les gendarmes depuis ce matin dans les Alpes de Haute-Provence. Une partie des ossements du corps du petit garçon ont été retrouvés samedi, un peu plus d'un kilomètre du lieu de sa disparition. Et les enquêteurs ont donc décidé de passer à nouveau la commune du Haut-Vernay au peigne fin. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Mathilde, vous êtes sur place pour Inter. Que cherchent les gendarmes depuis ce matin ?
Eh bien, ils cherchent des traces, des indices, des gendarmes qui sont déployés pour bloquer l'accès à tous les sentiers qui mènent à la zone de découverte des ossements du petit Émile pour éviter que le site ne soit pollué par les passages de randonneurs ou de curieux. Et puis une trentaine d'enquêteurs ratissent donc ce secteur en sous-bois, un peu plus d'un kilomètre à vol d'oiseau du hameau du Haut-Vernay, sur des sols détrempés. La pluie est tombée toute la nuit ici. Le colonel Pierre-Yves Bardi, commandant de gendarmerie dans les Alpes de Haute-Provence.
Tous les moyens techniques ont convergé sur les Alpes de Haute-Provence, à savoir des équipes cynophiles et en particulier des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains pour pouvoir apporter un complément aux enquêteurs. L'IRCGN est également présente, hein, des experts de Pontoise sont venus très rapidement sur site et continuent de travailler avec en particulier des anthropologues qui sont capables en fait d'avoir une telle technicité qui va en fait permettre d'exploiter au maximum les traces et indices que l'on serait susceptible de trouver.
Les enquêteurs sont à la recherche de nouveaux ossements du petit garçon, par exemple, ou des vêtements qu'il portait le jour de sa disparition, il y a près de 9 mois, pour tenter de comprendre comment et où Émile est mort. Est-ce que son corps a pu être déplacé par la pluie, le vent, la neige, un animal ou bien quelqu'un ? Aucune piste n'est écartée et les recherches dureront le temps qu'il faudra, précise la gendarmerie.
Mathilde Vinceneux, en direct des Alpes de Haute-Provence, avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Merci à tous les deux. Dans l'Oise, le village de Rantigny a appris avec stupeur ce week-end la mort d'une jeune fille de la commune. Shannon, âgée de 13 ans, elle est décédée mercredi dernier à l'hôpital après 3 semaines de coma. Cette collégienne avait été victime d'un viol le 6 mars dernier dans sa commune. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
3 personnes ont été mises en examen dans cette enquête.
Oui, le 6 mars, Shannon a rendez-vous chez l'une de ses amies. 2 garçons, 2 jeunes majeurs les rejoignent. Tout ce que l'on sait ensuite avec certitude, c'est que Shannon a eu un rapport sexuel extrêmement violent. Les pompiers viennent secourir la jeune fille inconsciente. Transportée à l'hôpital, son pronostic vital est engagé. Elle souffre de lésions internes. L'adolescente est morte donc mercredi dernier. Les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus. Et de sources proches du dossier, on préfère rester prudent sur le déroulement des faits parce que les versions des autres personnes présentes divergent et par crainte d'éventuelles tentatives de représailles. Un jeune homme a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire. Les deux autres jeunes gens présents sont mis en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime, placés respectivement sous contrôle judiciaire et sous mesure éducative judiciaire pour la jeune fille mineure. Aucun n'a d'antécédent judiciaire. Un juge d'instruction de Senlis est chargé de l'enquête pour des faits désormais qualifiés de viol ayant entraîné la mort et passible de 30 ans de réclusion.
Sarah Guibaudot pour ces informations. Entre la France et le Royaume-Uni, de très nombreuses traversées de migrants. Ces derniers jours, près de 800 ont pu traverser la Manche ce week-end, selon les autorités britanniques et françaises. Depuis le début de l'année, le nombre de traversées est en nette augmentation par rapport à l'année dernière. Un week-end de 3 jours au printemps, c'est souvent une opportunité pour les amateurs de musique techno. Plusieurs rave parties organisé dans le pays depuis samedi, ainsi à Quimper, sur l'aéroport de Plugufan. La préfecture a compté jusqu'à 8000 participants pour ce rassemblement interdit qui doit s'achever dans la journée. Puis dans l'Isère, les teufeurs là sont moins nombreux, 600 au plus fort de la fête, mais ils se sont donné rendez-vous sur un terrain privé à Chichiliane, le terrain du maire de la commune, Éric Vallier, qui est aussi agriculteur. Il a porté plainte et il se dit sidéré par la tournure qu'ont pris les événements, Romain Biteau.
Vendredi soir, Éric Vallier reçoit un appel des gendarmes. Des teufeurs sont en train de s'installer sur son champ de 4 hectares. En tant que maire, il prend un arrêté de circulation, rien n'y fait. Alors il se rend sur place avec des gendarmes. Les teufeurs lui réservent un accueil hostile.
Ils ont commencé à mettre des cagoules et ils étaient déterminés à passer. Une voiture de gendarmerie et 3 gendarmes par rapport à des dizaines de personnes. Le ton est monté. Ces individus ont soulevé la voiture. Ils se sont mis tout le tour, hein, comme dans les films. Ils l'ont mis sur le côté en nous disant que de toute façon, ils étaient déterminés à passer et que tout ce qu'on risquait, c'était de finir dans la rivière qui était à côté. Bien sûr que ça fait peur, on ne sait pas de quoi ces gens sont capables.
Après ça, Éric Vallier porte plainte pour occupation illégale d'un terrain privé et samedi, il retourne sur son champ.
Les gens étaient en place, il y avait déjà des centaines de participants et là, ils ont tenté d'acheter mon silence et que je retire ma plainte. Et ça, c'est inadmissible.
Surtout que les murs de son installés par les teufeurs créent des nuisances.
On entend la musique à plusieurs kilomètres. Hein. Le lieu dit les fourchots, ça fait un cirque, hein, entouré des falaises du Vercors. Et donc, vous avez le son qui monte sur le plateau. Mais aussi, c'est reflété jusqu'au village qui est à 5 km de là. Les habitants de Chichiliane ne comprennent pas.
Et à la mi-journée, les teufeurs étaient toujours là, bloqués sur place. Leurs véhicules sont actuellement embourbés dans le champ. C'est un reportage de France Bleu Isère. en matière de consommation de cannabis, le couple franco-allemand a une drôle d'allure. De ce côté-ci, du Rhin, tolérance zéro. La France, première consommatrice d'Europe, a aussi la réglementation la plus répressive de l'Union. En Allemagne, en revanche, depuis minuit, le cannabis récréatif est légal, ce qui reste une exception en Europe. Nous verrons cela dans une minute. D'abord, retrouvons Sébastien Baer, notre correspondant à Berlin. Sébastien, c'était une promesse de la coalition du chancelier Olaf Scholz, mais elle divise les Allemands, elle suscite beaucoup de craintes, notamment autour de son application.
Oui, parce que le texte laisse en fait un certain nombre de questions sans réponse. Par exemple, comment se procurer du cannabis dès ce 1er avril? Les consommateurs qui ont planté des graines ce matin doivent maintenant attendre la floraison, pas avant l'été. Et les clubs cannabis, les associations qui distribueront la drogue à leurs adhérents, ne pourront débuter leur activité que le 1er juillet. Ça veut dire que pendant cette période de transition de 3 mois environ, le marché noir a encore de beaux jours devant lui. Autre question, comment appliquer la loi? La consommation est interdite à moins de 100 mètres des écoles, crèches, terrains de jeu, installation sportive. Benjamin Yendro, le porte-parole du syndicat berlinois de la police, redoute un casse-tête pour les forces de l'ordre.
Avec cette règle des 100 mètres, cela signifie quasiment qu'il ne doit pas y avoir de drogue à Berlin, parce qu'il y a des écoles et des crèches partout. Cela veut dire que nos collègues vont devoir se déplacer avec un mètre ruban. Et puis on ne doit pas avoir plus de 25 grammes sur soi. On peut avoir au maximum 50 grammes à la maison. On a le droit d'avoir 3 plantes femelles. Cela signifie que nos collègues devront savoir les reconnaître. On a créé une loi, mais on n'a pas réfléchi à la façon dont les forces de l'ordre l'appliqueront.
Vous l'entendez, les syndicats policiers sont vent debout contre cette légalisation qui divise. Un Allemand sur deux y est opposé. Beaucoup redoutent aussi une surcharge de travail pour la justice, car la loi prévoit l'amnistie des délits liés au cannabis et 200 000 affaires vont devoir être réexaminées.
Précision de Sébastien Baer, en direct de Berlin. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
En fait, en comptant, Julie, l'Allemagne en Europe, seuls 3 pays ont légalisé le cannabis dit récréatif.
Et c'est assez récent en fait, 2021 pour Malte, 2023 pour le Luxembourg et aujourd'hui donc l'Allemagne avec à chaque fois des restrictions. En France, la ligne est dure, le cannabis c'est cool, la cocaïne c'est chic, voilà la représentation sociale des drogues, a dit récemment Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances devant une commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Il a ajouté la réalité c'est que ce sont des poisons destructeurs qui participent à la fragilisation de la société française. Consommer du cannabis en France, c'est s'exposer à un risque d'amende, voire d'incarcération. Peine maximale, 1 an de prison, 3 750 euros d'amende.
On peut aussi parler des Pays-Bas, où là, la consommation de haschich n'est pas légale, mais tolérée. Mais au final, Julie, en Europe, c'est l'interdiction qui prédomine.
Oui, mais avec des sanctions très diverses officiellement, jusqu'à 8 ans de prison à Chypre. En Espagne, posséder, consommer, cultiver du cannabis est autorisé, à condition que ce soit en privé et en petite quantité. Au Portugal, la consommation à petite échelle est possible également, dépénalisation, mais pas légalisation pour autant. Sur la question du cannabis médical, maintenant, la plupart des États membres ont dit oui, 21 sur 27. En France, où une expérimentation a été menée, son utilisation n'est pas encore légalisé.
Éclairage signé Julie Pietri. On a tant de fois annoncé sa fin de règne qu'on se gardera bien de tirer des conclusions hâtives. Mais en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a subi une véritable déroute électorale hier. La pire en plus de 20 ans au pouvoir. C'est l'opposition qui a largement remporté les élections municipales, conservant le contrôle d'Istanbul et celui de la capitale Ankara, mais s'imposant aussi dans plusieurs grandes villes jusqu'ici dirigées par l'AKP, le parti du président. Nous verrons dans un instant qui est le grand gagnant, le maire d'Istanbul. Avant cela, revenons sur le scrutin en lui-même avec vous, Marie-Pierre Véraud. Vous êtes notre correspondante en Turquie. Marie-Pierre, on pointe régulièrement les entraves à la liberté de la presse dans ce pays. Là, le scrutin s'est parfaitement déroulé.
Et oui, la démocratie électorale fonctionne plutôt bien en Turquie. D'abord, en général, il y a une très forte mobilisation. Elle était un peu en berne hier, mais 70% tout de même. Et effectivement, le président Erdogan, autoritaire qui n'aime ni la presse libre ni les magistrats indépendants, a reconnu clairement sa défaite hier soir, sans vouloir toutefois lire dans cet échec un affront personnel et tout en disant vouloir continuer son travail.
Le 31 mars, pour nous, ce n'est pas la fin. Nous sommes à la croisée des chemins. Le 31 mars, le peuple turc a envoyé un message aux hommes politiques. Le vainqueur de cette élection, c'est la démocratie.
C'est la démocratie et la claque est magistrale. Face à cette démocratie, il n'avait pas trop le choix, comme en 2019, quand il avait demandé une nouvelle élection à Istanbul qu'il venait de perdre. Là, plus d'un million de voix ont séparé son candidat du maire sortant.
Et donc, Marie-Pierre, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, s'impose comme le rival d'Erdogan. Qui est-il ?
Il est jeune, une cinquantaine d'années, il est charismatique, il sait s'adresser aux foules comme à chaque citoyen lorsqu'il va serrer des mains dans les quartiers. İmamoğlu peut en outre séduire de larges segments de la population. On l'a vu hier à Istanbul où l'électorat kurde a voté pour lui. Il est aussi originaire de la mer Noire, tout comme Erdogan, et peut facilement s'adresser aux électeurs turcs nationalistes. C'est un homme politique sunnite, mais il a pris soin dès hier soir de tendre la main aux différentes communautés en Turquie, citant les Arméniens, les Alevis, les Tcherkesses, les Kurdes bien sûr. Il veut donc apparaître comme une figure de rassemblement. Enfin, Ekrem İmamoğlu s'est montré un habile politicien. Il a fait la preuve qu'il pouvait gérer une ville comme Istanbul sans majorité au conseil municipal ces 5 dernières années. Istanbul, c'est 16 millions d'habitants, plus que la Hongrie par exemple. Celui qui la dirige peut prendre la stature d'un chef d'État.
Merci Marie-Pierre Véraud, correspondante d'Inter à Istanbul. Nous parlions de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et l'un des soutiens affichés du Hamas. Et bien à Gaza, l'armée israélienne s'est retirée ce matin de l'hôpital Al-Shifa après 2 semaines d'opération. Paysage de dévastation selon des images transmises par l'agence France Presse. Israël affirme avoir tué là-bas 200 terroristes, ce que dément le mouvement islamiste Hamas.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
À l'heure des fake news, des fausses nouvelles relayées via les réseaux sociaux, peut-on encore rire d'une fausse nouvelle, d'un poisson en ce 1er avril ? Nous verrons dans un instant qu'ils se font rares, les poissons, dans vos journaux aujourd'hui. Mais la tradition persiste encore. Alors, est-ce du lard ou du cochon ? Je vous soumets un cas concret. Dans la Creuse, un psychiatre parisien vient de lancer une expérimentation avec l'agence régionale de santé. Il prescrit des séjours sur ordonnance, remboursés par l'assurance maladie. Tout cela pour sortir ses patients de la dépression via un bon bol d'air. Et ça fonctionne. Pour l'instant, 5 patients ont bénéficié du traitement. Marie-Jeanne Delpol.
Marie Chantal, 68 ans, souffre de dépression depuis une bonne trentaine d'années. Alors quand son psychiatre lui a prescrit un séjour en Creuse, cette Parisienne s'est dit pourquoi pas.
Oh ben, j'y croyais pas du tout, j'étais surprise. Et puis la Creuse, ça ne me disait rien. Et alors j'ai dit oui, j'ai bien voulu expérimenter.
Après 3 semaines de méditation et de randonnée au bord d'un étang, elle repart enchantée.
Moi je le conseille, il faudrait que tous les psys fassent une ordonnance à leurs patients pour qu'ils aillent en Creuse vraiment.
Mais pour l'instant, il s'agit seulement d'un test. Le psychiatre Bruno Canla s'est battu pour obtenir les autorisations.
Alors, ce n'est pas des vacances. Les gens sont en soins. Donc, le but est non pas de les gaver de médicaments, mais justement d'essayer, dans la mesure du possible, qu'ils n'aient plus ces médicaments. Donc, il a fallu faire un certain nombre de réunions, expliquer les choses. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils ont accepté qu'on fasse un premier essai qui, pour l'instant, se déroule plutôt bien.
Avec 3 gîtes conventionnés en Creuse, dont celui de Bernadette Pénard.
Le médecin leur prescrit un séjour et il y a une demande d'entente préalable qui est faite auprès de la Sécu. Et nous devons leur faire un retour après pour leur expliquer comment ça s'est passé dans le cadre de l'expérimentation.
Et les 2 patients qu'elle a déjà accueillis lui ont promis de revenir avec ou sans ordonnance.
Voilà pour ce poisson signé de nos confrères de France Bleu Creuse. Je vous assure que beaucoup se sont laissés attraper dans la rédaction de France Inter, tant il paraissait plausible. Pourtant, et l'historien spécialiste de la presse Patrick Evenot nous le dit, les poissons sont en voie de disparition, victimes notamment de la crise sanitaire.
Je crois que c'est vraiment de plus en plus compliqué, en fait, depuis le Covid. Parce qu'il y a eu tellement de fake news au moment du Covid et autre chose du même genre. Et puis ensuite, la guerre en Ukraine, et puis le Hamas et Israël. On marche un peu sur des œufs à essayer de tourner en dérision des choses comme ça. Alors, ça se retrouve encore un petit peu sur les réseaux sociaux. J'en ai vu quelques-uns sur Twitter, sur Facebook, mais assez assez peu nombreux. C'est une tradition qui va disparaître dans la presse. Les journalistes ont de plus en plus peur qu'on confonde des opinions, des fake news et des vraies informations. On ne peut plus se permettre de tromper le public et donc ils essayent d'être responsables et sérieux et c'est une bonne chose, je crois.
L'historien spécialiste des médias Patrick Evenot au téléphone d'Alexandra Hakoun. 100% garantie, les jeux avant les jeux. Notre rendez-vous tous les lundis avant les échéances olympiques et paralympiques. Aujourd'hui avec vous, Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour à tous.
Alors Thierry Henry, qui sélectionne les joueurs de foot qui vont disputer les Jeux Olympiques, a transmis une liste de 80 joueurs français susceptibles d'être appelés en juillet et août prochain. À la fin, il n'en restera que 18. La sélection est un véritable casse-tête, Clara. Et ça vous agace.
Oui, vous vous souvenez évidemment de l'épisode Mbappé il y a 15 jours qui, s'il va bien au Real Madrid, pourrait manquer les Jeux à Paris car le club espagnol refuse de libérer ses joueurs étrangers. Eh bien, depuis, en France, on assiste aux prises de parole des dirigeants qui expliquent si, oui ou non, ils laisseront leurs joueurs participer aux Jeux cet été. Et nous sommes pendus à leurs lèvres, espérant que nos meilleurs jeunes soient libérés pour briller à Paris.
Le football, c'est l'exception.
Peut-on imaginer la sélection judokate, par exemple, sans Teddy Riner, qui serait retenu par son club, le Paris Saint-Germain. Ou bien nos handballeurs tricolores sans Nicolas Karabatic cet été. Non, ce serait une hérésie. Sauf qu'aujourd'hui, dans le football, on nous explique que les Jeux Olympiques sont mal placés. Après une saison footballistique qui se densifie d'année en année, après un euro cette année et juste avant la reprise des championnats. On nous explique surtout qu'un joueur, ça coûte cher et que ce n'est pas au club de payer le prix d'un attaquant fatigué ou d'un défenseur blessé. Pour les Jeux de Tokyo il y a 3 ans, le tournoi avait été un désastre. La plupart des clubs français avaient mis leur veto et la sélection française éliminée dès le premier tour.
On comptait quand même, Clara, pour ces Jeux sur la pression populaire pour que les clubs libèrent les joueurs. Ça semble fonctionner ?
Oui, alors les clubs de Lyon, de Lille, Lens ou Nantes, par exemple, se disent favorables, en rajoutant tout de même « Dans certaines conditions, chacun doit prendre sa part, 2 joueurs, pas plus ». Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, met en garde. On ne peut pas se déshabiller pour habiller l'équipe de France, lui qui, ironie de l'histoire, avait participé aux Jeux en 96 en tant que joueur. De quoi prouver encore, et s'il le fallait, que dans le football, le business passe avant tout, c'est l'argent avant la nation.
On peut quand même comprendre les clubs, Clara. Le calendrier de la FIFA est déjà très chargé.
La FIFA, oui, la Fédération Internationale de Football, celle-là même qui n'a pas voulu intégrer les Jeux Olympiques dans son calendrier. En fait, cette guéguerre avec le Comité Olympique remonte au début des Jeux modernes. Le football international avait été piqué à vif quand Pierre de Coubertin imposait exclusivement des sportifs amateurs pour les Jeux, ce qui évinçait de facto le football professionnel qui était alors en plein balbutiement. Au fil des éditions, la fédération a montré les muscles jusqu'à créer sa Coupe du Monde de football en 1930 pour concurrencer directement les Jeux Olympiques. Ce fut un succès populaire et économique. Il n'est alors plus question d'investir dans les Jeux qui ne rapportent rien. La FIFA s'en désintéresse, même en 92 à Barcelone, quand le CIO a imposé un seuil d'âge limite pour les footballeurs aux Jeux, 23 ans sauf exception. La FIFA ne s'est pas battue, ce qui donne un tournoi sans valeur ou presque. Se souvient-on, comme pour les mondiaux, des vainqueurs, l'Argentine en 2022 ou de la France en 98, se souvient-on des vainqueurs aux Jeux à Tokyo il y a 3 ans? Je vous aide un peu Jérôme, c'était le Brésil, faut
d'accord,
avoir de la mémoire.
Favori, mais bon, je l'aurais pas retrouvé.
Voilà, ils ont gagné les Jeux Olympiques. À quoi bon pour la FIFA investir dans les Jeux quand le football ne soulève pas les foules pour les Jeux, mais en tout cas pour la Coupe du Monde, et elle soulève les milliards. On en revient au véritable vainqueur de tout cela, c'est toujours l'argent plutôt que l'amour du sport et du pays.
Comme souvent, et merci d'avoir décrypté ce nouvel épisode de la guerre entre le foot et les JO. Clara Lecoq-Réal dans ce rendez-vous, tous les lundis sur Inter, 13h28. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, on parle de la comédie musicale Mamma Mia, inspirée des tubes du groupe ABBA, 25 ans de succès. Sa version française est donnée en ce moment à Paris, prolongation en cours. J'attends vos questions et témoignages. 01 45 24 7000. 13h45, c'est notre feuilleton. Et cette semaine, nous sommes avec les frontaliers lorrains. Ils sont près de 120 000 chaque jour à travailler au Luxembourg. Et ces salaires attractifs. 13h50, Thomas Negaroff et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Thomas, on parle chocolat avec vous.
Oui, et direction Bayonne au Pays Basque, parce que vous savez, Jérôme, que si on était au 19e siècle, le chocolat que vous avez ou que vous allez trouver dans votre jardin aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'il venait du Pays Basque.
Et avec vous, Frédéric, une romancière.
Nina Bouraoui, qui vient de publier Grand Seigneur, son 19e livre, et elle nous fera écouter Ton héritage, l'une des plus belles chansons de Benjamin Biolay.
En effet, merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Le 7 octobre dernier marquait le début d'une nouvelle tragédie dans le conflit israélo-palestinien, avec de très nombreuses victimes sacrifiées de part et d'autre. Dans Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident, Gilles Kepel livre une analyse percutante du drame qui a fait basculer les équilibres du monde. Un décryptage saisissant des origines et des conséquences de cet affrontement par le plus grand spécialiste du monde arabe contemporain. Holocauste, l'ouvrage de référence pour comprendre ce qui se joue au Moyen-Orient et à l'échelle mondiale. Holocauste de Gilles Kepel aux éditions Plomb.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps instable avec des averses, parfois orageuses.
Oui, sur la plupart des régions, en effet, un risque d'averses, d'orages, du vent. C'est vraiment sur le nord-ouest jusqu'à la Gironde, au centre Val-de-Loire et au bassin parisien que les averses sont les plus nombreuses, avec du grésil possible, des rafales de vent jusqu'à 70 à 90 km à l'heure. Ça n'empêche pas quelques éclaircies de temps en temps, surtout sur le sud de l'Aquitaine. En montagne, il neige vers 1200 à 1500 mètres suivant les massifs. Attention toujours aux avalanches sur le sud des Alpes. Autour de la Méditerranée, c'est du soleil, mais sur la Corse, quand même, ça reste très nuageux sur l'ouest, avec du vent fort jusqu'à 100 km à l'heure. Prudence à proximité des cours d'eau. La vigilance orange est maintenue par les services de Vigicru sur la Bourgogne, le sud-est, la Nouvelle-Aquitaine. Vigilance rouge toujours sur l'Indre-et-Loire. On a des températures plus ou moins de saison, 12 à 15 degrés au nord, 14 à 19 degrés au sud. Et puis demain, on a de nouvelles pluies qui vont arriver sur le nord-ouest, mais tout de même moins importantes que les jours précédents.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Vous avez reconnu l'un des tubes du groupe ABBA, Mamma Mia, mais avec des paroles en français. C'est la signature de la comédie musicale Mamma Mia, donnée à nouveau depuis quelques jours au Casino de Paris, après un premier passage entre novembre et janvier, preuve de l'engouement du public et dans toutes les générations, pas uniquement celles qui ont connu les succès du groupe dans les années 70-80. Voilà pourquoi nous avons décidé de parler aujourd'hui de ce succès avec l'une des artistes qui est l'âme et la mémoire du spectacle, Gaëlle Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Vous interprétez le rôle de Donna, la mère, en alternance avec Léo Vanni-Rau.
Oui, tout à fait.
Après vous, Gaëlle, avoir tenu en 2010 le rôle de Sophie, donc oui, la fille, donc vous êtes la preuve de la longévité de ce succès.
C'est un petit peu
avec
ça.
Avec nous également, l'un de nos meilleurs connaisseurs des comédies musicales, c'est Laurent Vallière. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Producteur de l'émission 42e rue consacrée aux comédies musicales. C'est chaque dimanche à 13h sur France Musique. J'attends vos appels évidemment. 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter. Je résume l'intrigue rapidement pour ceux qui n'ont vu ni la comédie musicale ni le film 2008. Donna et sa fille, qu'elle a élevée seule, vivent sur une île grecque où Donna tient un hôtel. Mm-hmm. Sophie a 20 ans, elle va se marier et elle veut que son père assiste à ce mariage. Mm-hmm. Alors elle écrit à trois hommes avec qui sa mère a une liaison, oui, il y a 20 ans, pour savoir lequel des trois est son père. Oui. Elle les invite au mariage et ils viennent tous les trois. Et là commence l'intrigue. Gaëlle Gauthier, c'est quand même incroyable l'histoire qui vous lie,
oui,
à ce spectacle. Oui, comment est-ce que tout a commencé pour vous ?
Ah ben, tout a commencé il y a 13 ans, j'ai à peine 20 ans, et effectivement, je me dis, tiens, il y a les auditions pour cette jeune fille, donc j'envoie, je passe les auditions, je passe 10 tours d'audition, ça dure des mois et des mois. 600 filles sont vues pour le rôle, et voilà, un jour on m'appelle et on me dit, bah, ce sera toi. Donc c'est une très grande et belle nouvelle, et l'aventure durera en plus 3 ans, j'ai joué 600 fois aussi, c'était donc incroyable, ouais, ouais, ouais.
À l'époque, vous jouez Sophie.
Ouais.
Est-ce que vous vous dites Donna, c'est quand même presque le rôle principal, finalement.
Non, non, le rôle principal.
J'aimerais bien jouer Donna un jour. Est-ce que vous avez déjà ça en tête?
Bah, je me dis que c'est un très beau rôle, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je vois tout ça de mon prisme de jeune fille. Donc, non, à aucun moment. À ce moment-là, en tout cas, je me dis juste qu'elle a des très belles chansons et que c'est un beau rôle. Mais c'est vrai que j'avais pas envisagé à cette époque-là que ce serait possible.
Comment ça s'est fait ensuite, le passage bien des années après dans la peau de cet autre personnage de Donna.
En fait, j'ai eu beaucoup d'appels de jeunes filles, de messages sur les réseaux de jeunes filles qui passaient pour le rôle de Sophie lorsque les auditions sont arrivées à nouveau, et en me demandant des conseils pour les auditions. Et je crois que ça a rallumé en moi une petite flamme, et je me suis dit, haha, entre temps je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et puis le temps passe. Est-ce que du coup ce serait pas aussi pour moi l'occasion d'y retourner?
Donc voilà. C'est vous qui avez sollicité la production à ce moment-là?
Exactement. Ils m'ont dit, bah écoute, tu vas passer les auditions aussi, comme tout le monde. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr. Donc j'ai envoyé ma petite vidéo de la chanson, j'ai passé un tour, deux tours, trois tours, et puis voilà. Incroyable.
Et ça c'est fait, on a cette histoire incroyable, et vous êtes sur la scène du Casino de Paris. Ouais. C'est une histoire de famille, on parle de mère et de fille, Laurent Vallière. C'est peut-être ce qui explique aussi le succès de cette comédie musicale, parce qu'on peut se retrouver dans ces histoires de famille.
Bah, au départ, on doit beaucoup tout à la librettiste, Catherine Johnson. En fait, quand le groupe ABBA, on leur propose de faire une comédie musicale, ils disent ok, pourquoi pas. Ils en avaient écrit d'ailleurs un de leurs albums, en 1977, était déjà une mini-comédie musicale. La fille aux cheveux d'or. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui les intéressait. Et quand la productrice qui pense à faire un spectacle de toutes ces chansons leur dit on va faire une comédie musicale, ils disent oui, mais je veux pas qu'on raconte l'histoire. On veut pas qu'on raconte l'histoire du groupe qui s'est mal terminé en 1982.
Et donc, l'intrigue a rien à voir avec la vie du groupe.
Rien du tout. Et donc, ils font appel à une auteure de scénario, de roman, Catherine Johnson. Et la façon dont elle travaille, en fait, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Oui. Elle ne connaissait pas toutes les chansons de ABBA, et surtout, elle n'a pas voulu les écouter. Elle a pris toutes les paroles de toutes les chansons, et à partir de là, elle a écrit un canevas à partir duquel elle pouvait insérer, et c'est ça qui fonctionnait incroyablement bien à Londres. Moi, j'avais vu en 1999 quand ça a ouvert.
Donc en anglais, il y a 25 évidemment.
Ans, en anglais. C'est qu'en fait, il y avait des moments, des choses qui arrivaient sur scène, et tout d'un coup, la chanson débutait, et on avait l'impression vraiment que la comédienne répondait à l'acteur qui était sur scène, mais en fait, c'était la chanson d'ABBA qui commençait. Et donc, elle a réussi comme ça à faire quelque chose de très féministe, presque, avant l'heure. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, elle est presque datée, cette comédie musicale, parce qu'avec les tests ADN, vous pouvez plus la faire, cette comédie musicale, en fait. C'est très, très vite réglé, quand même. Mais c'est pas grave, ça marche très bien.
Oui, c'est pas la question que je me suis posée spontanément.
En le revoyant il y a pas longtemps, je me suis dit, waouh, c'est dingue.
Ça pourrait être bouclé en deux minutes, cette affaire.
C'est ça.
Et finalement, ça fait deux heures, mais tant mieux. Mais vous l'avez dit, vous avez prononcé le mot, Laurent Vallière, féministe.
Oui.
Ce sont les figures féminines, Gaëlle Gauthier, qui tiennent le premier rôle. Ça a été écrit il y a 25 ans, donc c'est vraiment un spectacle avant-gardiste.
C'est incroyable. Et c'est vrai que c'est un spectacle de femmes. Alors, de temps en temps, on invite certains hommes quand même à venir jouer avec nous, mais c'est vrai que c'est un spectacle de femmes.
Avec des thématiques d'ailleurs, parce qu'on parlait des chansons qui ont toutes été traduites en français.
On va y venir.
Et en fait, y a, toutes les chansons du groupe ABBA racontent quelque chose. Et là, c'était drôle parce que Gaëlle Gauthier racontait à l'instant qu'elle avait, depuis 10 ans, s'était mariée, avait une fille. Mm-hmm. Et en fait, il y a une chanson, par exemple, comme ça, « Et le temps me glisse entre les doigts », qui est un des plus beaux moments du spectacle dans la comédie musicale, où à un moment, Donna fait...
Je prépare ma fille à son mariage.
Je
mets sa robe.
Et donc, il y a cette chanson, je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle en anglais, tellement j'ai le titre
Sleeping
en français.
« Sleeping Through My Fingers ».
Voilà. Et qui rentre, mais magnifiquement, dans le cadre de cette pièce de théâtre. Parce que pour moi, c'est vraiment une pièce de théâtre plus qu'un concert, Mamma Mia.
Et c'est vrai qu'on a l'impression que les chansons ont été écrites pour le spectacle. Ça, c'est assez incroyable quand même.
Vous avez, il y a une autre chanson, une autre tirade, Gaëlle Gauthier, sur la difficulté d'élever une fille quand on est une mère célibataire. Parce que Donna est une mère célibataire.
Tout à fait.
Et ça aussi, c'est terriblement d'actualité. En ce moment à des aides particulières. Les députés planchent là-dessus. Mm-hmm. Pour les mères célibataires. Il y a un cri du cœur dans le spectacle sur ce thème-là.
Bien sûr. On est vraiment sur une femme forte, moderne, qui a fait ce choix-là, non seulement d'élever sa fille seule, mais en plus de partir l'élever à l'autre bout du monde, sur une île. Donc, on est sur quelque chose effectivement d'extrêmement moderne et sur une femme très indépendante.
Avec donc des tubes d'ABBA qui surgissent, il y en a une vingtaine je crois dans le spectacle, et des musiciens en live, je le précise. La traduction n'était pas très difficile, finalement, de l'anglais Au français, Gaël Gauthier, est-ce que c'est difficile à chanter ou pas, à bas et plus difficile en français que... qu'en anglais?
Alors ça, c'est forcément une question qui revient beaucoup, y compris nous, hein, quand on a su qu'on allait chanter ces chansons en français, on s'est quand même posé cette question. Alors, il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est que ces chansons faisant justement partie intégrante d'une intrigue, ça n'aurait pas pu être autrement. L'inverse même aurait été très étonnante, c'est-à-dire qu'on s'énerve en français et d'un coup, on se met à chanter en anglais, ça aurait été vraiment très particulier. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a eu un énorme travail fait par Nicolas Nebot, qui est l'adaptateur de ces chansons, qui traduisait les chansons, les renvoyait aux garçons d'Abba pour qu'eux-mêmes fassent retraduire pour voir si le sens était toujours le même, et ensuite validait.
Donc Abba a validé les traductions.
Chaque chanson, chaque mot, ça a été validé par Abba, et c'est pour ça aussi, je crois, que ça fonctionne. Et c'est un énorme travail qu'ils ont fait ensemble. Ouais.
Ouais, mais ouais. C'est vrai que je reviens à la question du sens. Moi, beaucoup de spectateurs autour de moi, j'ai entendu cette réflexion, heureusement, parce que j'aurais eu du mal à comprendre. Ça m'a aidé à comprendre l'intrigue, finalement.
Oui, c'est ça.
D'avoir cette traduction. Ouais. Ça, Laurent Vallière, c'est unique au monde, si je puis dire, parce que cette comédie musicale, elle est jouée partout dans le monde. La traduction en français, ou bien il y a d'autres pays qui ont adapté dans leur langue cette comédie musicale.
C'est nous, les Français, les puristes, qui n'osons pas monter des comédies musicales traduites en français. En Allemagne, dans le monde entier, toutes les comédies musicales sont traduites dans la langue du pays. Et donc, c'est tout à fait normal. C'est exactement ce que explique Gaël Gauthier. En France, on ne sait pas pourquoi. Il y a ce purisme qui dit que, voilà, quand on traduit une comédie musicale, c'est impossible de traduire les paroles. Et donc, là, il va y avoir encore plein de spectacles qui vont être montés où vous avez les dialogues, effectivement, qui sont en français, tout d'un coup, les chansons sont en anglais.
C'est intéressant ce que vous dites, Laurent, et je vous redonne la parole parce qu'on a deux témoignages d'Hervé et Tatiana qui ont vu la comédie musicale, qui ont adoré, mais qui ont quand même cette réserve sur pourquoi c'est traduit en français, qui auraient préféré que ce soit en version originale.
Dans le monde entier, c'est toujours traduit en Allemagne, c'est donc traduit. Les chansons sont traduites en allemand. Dans le monde entier, au Japon, vous allez le voir. Toutes les comédies musicales sont toujours traduites dans toutes les langues où le spectacle est monté. Il y a qu'en France où il y a cette sorte de purisme. Alors, on ne sait pas pourquoi, où effectivement on considère qu'il ne faut pas traduire les chansons parce que le librettiste américain a écrit des paroles qui sont intraduisibles. Mais c'est pas vrai. N'importe quelle chanson, n'importe quel tube, parfois dans les années 70, vous preniez un tube italien et puis ça devenait un grand tube dans la voix de Claude François ou d'un autre chanteur de variété.
Et puis il faut vraiment venir voir Gaël le spectacle Gauthier pour comprendre que ça n'aurait pas pu être autrement, vraiment. Ça aurait été très très étonnant. Elles sont tellement dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elles arrivent vraiment, d'ailleurs normalement dans une comédie musicale c'est ce qui se passe, là où l'émotion devient trop forte pour continuer à s'exprimer en parlant, eh bien on se met à chanter. Donc elles sont vraiment intégrées dans une action et on n'aurait pas pu faire autrement que de continuer de faire ça dans notre langue en fait.
C'est pas un concert en fait. Vous allez vraiment voir une pièce de théâtre et donc à un moment il se passe des choses. Par exemple, vraiment, moi, c'est le moment qui m'a le plus touché parce que c'est le moment d'ailleurs où Donna fait deux chansons l'une après l'autre. Je ne sais pas comment vous y arrivez. Une qui est très puissante et l'autre qui est très douce.
Elle va nous dire.
Et le temps me glisse entre les doigts. Et c'est des moments, effectivement. Alors oui, on pourrait se dire, ils n'ont qu'à chanter en anglais, on lit les sous-titres, mais vous perdez beaucoup de temps quand même à lire les sous-titres.
Et je crois que quand on vient voir le spectacle, le sujet n'existe plus, vraiment.
Les différences, Laurent Vallière, puisque cette comédie musicale a été ou est jouée à New York, à Londres, à Paris, est-ce qu'il y a des différences finalement au-delà de la langue?
Ah mais non.
Ou bien
ah
est-ce que vraiment il y a un label Mamma Mia qui fait que quel que soit l'endroit où on voit ce spectacle, on voit finalement la même chose?
Ah non, vous voyez exactement la même chose. La seule chose, parce que c'est labellisé, quand Gaëlle Gauthier disait qu'elle a passé je ne sais pas combien de séances de casting, c'est parce qu'après, il y a le grand patron du producteur qui vérifie si les acteurs sont effectivement capables d'interpréter ce personnage. Mmh. Et la seule chose que s'est permis, par exemple, Stéphane Laporte, quand il fait des adaptations de livrets, c'est qu'il peut essayer peut-être de faire un clin d'œil à ce qui se passe en France, dans les livrets. Mmh. Mais sinon, la mise en scène, le sirtaki, les talons haute forme à 30 cm, les tenues, tout.
Les costumes, oui.
Les co-
tout est complètement figé.
Il y a un cadre, oui, il y a un cadre.
C'était un peu, voilà, on était en 1999 et on rentrait dans cette sorte de comédie musicale qui était comme une marque, qui pouvait voyager à travers le monde. C'était le fantôme de l'opéra. On pouvait pas changer une seule chose, un seul centimètre de la fumée qui sortait de la barque du fantôme de l'opéra quand il était sous l'opéra. Il y avait plein de comédies musicales comme, par exemple, aussi Les Misérables. Uh-huh. Il fallait rien changer. On vendait vraiment le produit, comme Le Roi Lion, par exemple, si vous allez voir Le Roi Lion aujourd'hui au Théâtre Mogador.
C'est pas très loin du Casino de Paris.
Voilà, c'est exactement la même production, les mêmes marionnettes, validées par, cette fois-ci, le studio Disney.
Pour revenir à Mamma Mia, ce succès à l'automne, prolongation depuis la semaine dernière au Casino de Paris. Moi, j'ai vu des jeunes, des adolescentes, garçons et filles, évidemment des plus anciens qui ont connu Abba dans les années 70 ou 80. Comment vous expliquez ce succès qui mêle plusieurs générations, Gaëlle Gauthier ?
D'abord, le succès des chansons d'Abba, qu'elles soient en français, en anglais, ça changera jamais. C'est des chansons qui seront jamais ringardes, elles resteront toujours vintage finalement. Donc il y a ça. Et ensuite, c'est vrai qu'ils ont réussi à créer une histoire avec plein d'enjeux différents. On y parle d'amour, d'amitié, de paternité, de maternité. C'est un spectacle extrêmement feel good. Il n'y a pas plus feel good que Mamma Mia. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Vraiment, quand on vient le voir une fois, on a envie de le revoir.
Les gens se lèvent, les gens dansent.
Oui, c'est assez dingue. C'est quand même fou ça. Et même nous, on arrive au théâtre et on en ressort pas différent.
Laurent Vallière, comment vous expliquez ce succès et cette longévité ?
C'est le premier des jukebox musicaux. Avant, il n'y avait pas cette manie de se dire tiens, on va prendre toutes les chansons de... Alors je dis Charles Aznavour parce qu'après, Laurent Ruquier a fait une comédie musicale autour des chansons de Charles Aznavour. Mais il n'y avait pas avant cette idée-là. Et à partir de là, il va y avoir plein de comédies musicales. Aujourd'hui, si vous allez à New York, vous avez une comédie musicale autour de Michael Jackson avec un mec incroyable qui a refait toutes les chorégraphies de Michael Jackson. On ne sait pas comment il fait. Vous avez une comédie musicale sur Frankie Valli et les Four Seasons. Enfin voilà, ça a lancé et c'est vrai que c'était quand même... là, on est le 1er avril. En fait, le spectacle a ouvert le 6 avril 99 à Londres et c'était 25 ans exactement jour pour jour après le jour où Abba a gagné le concours de l'Eurovision avec Waterloo. Il y a donc 50 ans exactement.
C'est jusqu'au 28 avril. Les billets vont de 40 à 100 euros pour les tarifs standards. C'est au Casino de Paris. On vous y retrouve, on vous y applaudit. Merci.
Merci.
Gaëlle Gauthier, et je renvoie Laurent Vallière sur votre ouvrage 42e rue, la grande histoire des comédies musicales. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, nous passons toute cette semaine entre le nord de la Moselle, en Lorraine, et le Luxembourg. Près de 120 000 travailleurs passent cette frontière tous les jours. Et aujourd'hui, avec notre reporter Manon Derdevet, nous suivons le trajet de Jessica. Elle habite Canfen, à 5 km de la frontière. Elle part travailler à Luxembourg chaque matin, des heures dans sa voiture. Un mode de vie qu'elle remet de plus en plus en question.
Enchantée. Je m'appelle Jessica, j'habite à Canfen, j'ai 40 ans. Deux enfants et un mari. Et un petit chat.
Il fait du bien le café à 6h du matin.
Ah oui, il en faut au moins deux, voire trois.
Donc là, on se prépare pour combien de temps de route ?
Au minimum une heure. Minimum. Une heure le matin, une heure le soir. Donc c'est plutôt en règle générale 1h15, 1h20, ou tu peux mettre 2h aussi. Alors qu'on est à 24 km, porte à porte, de ma maison à mon travail.
Pour les enfants aussi, ça fait un réveil tôt.
Malheureusement, il n'y a pas le choix. 7h30 dans le bus pour commencer à 8h20 l'école. Dès le matin, t'enchaînes et faut pas perdre une minute. Mais t'as pas le choix. C'est parti. Ça va. 7h23, on est pas mal. Et là, c'est l'arrêt de bus. C'est bon pour toi, ma puce ?
Oui.
À ce soir. Bonne journée, mon cœur. Allez. Ça fait 16 ans qu'on travaille à Luxembourg. Pourquoi ? À la base, on est tous les deux Vosgiens. Mon mari me dit, écoute, soit j'envoie des CV au Luxembourg et en Suisse. Le premier qui me répond, j'y vais. Donc voilà pourquoi Luxembourg. C'est un peu le hasard, quoi. Je suis commerciale dans l'immobilier. Je sortais de l'école à ce moment-là. J'ai déposé mon CV le matin dans une boutique. L'après-midi, je passais un entretien. Le lendemain, je commençais. C'est du très rapide et surtout, tu as un CDI direct. Donc moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, on est dans un autre monde. Alors qu'en France, je déposais mes CV dans des cabinets d'assurance, etc.
je ne trouvais pas de travail.
Il y a aussi la question du salaire, j'imagine.
Évidemment, on gagne mieux notre vie, alors après, on le paye. Hein.
Si vous faisiez le même emploi, mais en France,
je pense que tu fais un gap de peut-être 1000 euros, donc ce qui est énorme. Ça y est, les bouchons commencent, donc on a fait aller 1 km. On est dans le village de Zougen et c'est un enfer déjà. Ça va être long, je pense. C'est comme ça pour tout le monde. Alors, il y en a qui viennent comme moi en voiture, il y en a qui prennent les transports en commun. Mais il y a des suppressions, il y a des annulations, il y a des retards. Donc finalement, c'est aléatoire pour et la voiture et les transports en commun. Tous les matins, tous les soirs, c'est un stress continu toute la semaine. Bon, après, on est tous dans le même cas, hein, mais c'est l'angoisse du trajet. Et oui, si, c'est sûr que 2h30 par jour, fois 5, fois 52 semaines, ça représente quasiment l'équivalent d'un mois de trajet. C'est énorme. On est épuisé physiquement, moralement. C'est une vraie question à Luxembourg. Hein. Aujourd'hui, toute cette jeune génération ne font plus le choix de faire ce qu'on fait nous. Ils vont bosser en France, ils gagnent moins, mais ils ont un confort de vie différent. Donc c'est de plus en plus compliqué, je pense, de recruter des jeunes recrues à Luxembourg. C'est vrai que finalement, tu te dis pour gagner un peu plus, mais à quel prix, quoi ? Quel temps tu perds Donc oui, le confort de vie aujourd'hui, il se paye, quoi. Hein. C'est compliqué.
Alors là, on arrive au travail.
Ben, du coup, on a mis 1h12. C'est pas mal. Franchement, on s'en sort quand même vraiment bien parce que ça s'annonçait quand même plus compliqué. Et finalement, ça va.
Manon Derdevet pour ce premier épisode. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50, le lundi, l'histoire d'un lieu dans l'actualité. Avec vous, Thomas Snegaroff. Aujourd'hui, Thomas, en ce lundi de Pâques, on parle chocolat et on prend pour ça la direction du Pays Basque.
Oui, et s'il y a un musée du chocolat à Biarritz, c'est à Bayonne, à côté, qu'il faut plutôt se rendre. Mais si l'histoire de Bayonne et du chocolat est très ancienne, on va y revenir, elle n'est découverte que plus récemment, il y a à peu près une trentaine d'années, et fort bien utilisée, vous allez l'entendre, par les chocolatiers de la ville. France Inter s'en fait l'écho, le 10 avril 1993, extrait du journal de 8h avec comme reporter à Bayonne un certain Christophe Andelatte.
Déjà célèbre pour son jambon, Bayonne a désormais une nouvelle spécialité, le chocolat. Des historiens de la ville ont en effet découvert récemment que c'est à Bayonne, au XVIIe siècle, qu'on a fabriqué en France du chocolat pour la première fois. Fort de cette découverte, ils viennent de fonder l'Académie du chocolat. Les chocolatiers de Bayonne fabriquent chaque année 15 à 20 tonnes de chocolat. Ils comptent sur ce titre de capitale historique du chocolat pour augmenter leur production.
Bayonne, capitale historique du chocolat. Il faut nous expliquer ça, Thomas.
Alors, on pourrait remonter au 19e siècle, quand les premiers chocolatiers d'importance s'installent à Bayonne, à l'image de Cazenave, en 1854. J'ai vérifié, ça existe encore aujourd'hui. Ouais. Mais l'histoire chocolatière de Bayonne, qui lui vaut en effet le titre honorifique hein, de capitale historique française du chocolat, remonte au 17e siècle, au début même du 17e siècle. Le chocolat est alors déjà très bien connu en Espagne, ramené d'Amérique du Sud par le célèbre conquistador Hernán Cortés en 1528. Le chocolat va se diffuser en Europe au gré des alliances aristocratiques ou commerciales.
Et donc, Bayonne dans cette histoire ?
Vous avez raison de conserver l'idée de Bayonne.
C'est le thème de la chronique.
Absolument, merci Jérôme. Au XVIIe siècle, Bayonne est une place forte du commerce avec son important port maritime et fluvial. C'est là qu'une forte communauté juive a le droit de s'installer après avoir été chassée de la péninsule ibérique. Et c'est au sein de cette communauté que figurent les négociants, commerçants au contact avec de nombreux comptoirs du commerce d'Amérique du Sud et d'Espagne et qui savent comment importer des fèves de cacao et surtout les transformer en chocolat. Dans les archives, à Saint-Esprit, sur l'autre rive de l'Adour, où sont regroupés les juifs chassés de Bayonne, on trouve dans les années 1680 les premiers, et on le voit dans les archives, faiseurs de chocolat, entre guillemets, même s'il y en a peut-être eu avant cette date, on ne sait pas vraiment. Mais ces juifs n'ont pas le droit d'aller en journée à Bayonne, alors de nuit, ils l'apportent chez les épiciers bayonnais qui le revendent ensuite dans leurs échoppes.
Et c'est ainsi que ce savoir-faire se diffuse à Bayonne, puis dans la région et dans toute la France ?
Oui, et les bayonnais qui ont un temps tenté en vain d'interdire aux juifs de fabriquer du chocolat vont s'y mettre en effet et de véritables dynasties de chocolatiers apparaissent, créant notamment des bonbons de chocolat sous forme pâtissière ou de glace qui s'exportent dans toute l'Europe, notamment au début du 19e siècle. Ça se fabrique dans tout le Pays Basque d'ailleurs. On parle toujours du chocolat de Bayonne, mais on en a partout, Saint-Jean-Pied-de-Port et ailleurs, à l'honneur notamment de la grande exposition franco-espagnole de 1864 qui se tient à Bayonne. L'empereur Napoléon III adore le chocolat. Il veut faire de ce produit de luxe un produit de consommation courante. Le chocolat de ménage doit entrer dans tous les foyers. C'est ce que décide l'empereur. Alors ensuite, on va oublier cette histoire que je vous ai racontée. Ouais. Notamment avec l'industrialisation de la production, les chocolatiers de Bayonne vont au XXe siècle fondre comme chocolat au soleil. Mais effectivement, aujourd'hui, on se souvient que c'est à Bayonne qu'on a employé pour la première fois en France le mot de chocolat.
Merci Thomas Snegaroff pour C'est la France avec des jeux de mots en prime. Merci à vous Thomas. Il va falloir être à la hauteur Frédéric Pommier. De C'est la France à C'est une chanson. C'est la romancière Nina Bouraoui que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro.
Elle vient de publier Grand Seigneur, un récit bouleversant dans lequel elle retrace les derniers mois, les dernières heures de la vie de son père. Elle raconte qui était son père, raconte comment elle tente d'apprivoiser sa mort, le manque, les souvenirs. C'est d'ailleurs une chanson qu'aimait beaucoup son père, que Nina Bouraoui a souhaité que l'on écoute. Un bijou, c'est ton héritage de Benjamin Biolay.
C'est moi qui lui ai fait découvrir cette chanson il y a quelques années, je crois que c'était en 2014. Et en fait, il se l'est approprié. C'est ma chanson, c'est mon histoire. Et je trouvais ça très mignon et très touchant. Et en fait, quand j'ai accompagné mon père dans ses derniers jours en soins palliatifs, ce que je raconte dans Grand Seigneur, mon livre, trois jours avant sa mort, je sais qu'il pouvait entendre encore, mais il ne s'exprimait plus. J'ai voulu, comme un message peut-être d'une fille à son père, lui faire écouter cette chanson. Pour une fois, j'ai réussi à être seule dans cette chambre parce que c'était assez désordonné et anarchique. Il y avait toujours beaucoup de monde. Toute ma famille était souvent là et on respectait pas toujours les temps de solitude parce qu'on avait tellement peur qu'ils s'en aillent sans nous. Et en fait, c'était très joyeux que la chanson, que la musique, que les paroles entrent dans cette chambre qui était la dernière chambre de mon père. Tout d'un coup, il y a une sorte de communion. Et je trouve que cette chanson décrit extrêmement bien le métier d'être père. Et cette transmission, parfois, dont on ne s'aperçoit pas, mais en grandissant, on se dit « Ah oui, ça, je tiens ça de mon père ». Et moi, je ressens beaucoup à mon père, physiquement, mais je pense aussi que j'ai certains traits de son caractère. Et je trouve qu'il avait raison de faire cette chanson la sienne.
C'est la dernière chanson que votre père a entendue ?
Oui, je crois que c'est la dernière chanson que mon père a entendue, oui. J'allais dire « attendue », voyez le lapsus. Oui, c'est la dernière.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si
c'est en 2009 sur l'album La Superbe qu'est sortie cette chanson de Benjamin Biolay, Frédéric.
Une chanson où il est donc question d'héritage. Que reçoit-on de nos parents ? Et Nina Bouraoui, qu'y a-t-il de son père en elle ?
Je crois que j'ai hérité de mon père en fait une dualité, à la fois une grande joie, un grand amour pour la vie et parfois des instants de méditation, de contemplation un peu triste. Ça, c'est mon côté un peu oriental. Et sinon, je crois que j'ai appris de lui l'organisation des idées, l'amour du langage et puis une force de travail et parfois, en effet, une sorte de lascivité très assumée et très bienfaitrice, pour la création notamment.
Vous dites cette chanson, elle décrit très bien ce que c'est qu'être père. De quelle manière elle le décrit ?
Parce qu'en fait, il décrit sa jeunesse à lui, avant tout. Il se dit que la jeunesse de son enfant sera peut-être la sienne, en tous les cas qu'il lui a transmis certains traits de caractère. Et je trouve qu'il y a dans cette chanson quelque chose de très émouvant. C'est la compréhension, la générosité et l'acceptation peut-être de certains défauts de la jeunesse, de l'adolescence, parce que le père a connu ça. Je trouve qu'elle est grande parce qu'elle ne rabaisse pas l'enfant, elle ne rabaisse pas l'adolescent. Au contraire, elle le magnifie. Et puis elle le console. Cette chanson lui dit « Si t'es ainsi, c'est pas de ta faute, c'est peut-être de la mienne. » C'est beau, c'est grand.
« Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. » Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang.
Mon enfant, c'est un mot qu'il employait.
Mon père m'appelait souvent mon amour adoré. Je trouvais ça très beau, sans aucune connotation amoureuse, évidemment. Mais c'était vraiment l'expression de la grande tendresse, du grand amour. Quand il m'appelait, c'était toujours mon amour adoré, avec son petit accent. Et je ne suis pas mariée, donc j'ai gardé le nom de mon père. Donc il est toujours là sur les couvertures, mon père, Bouraoui.
Il est là dans cette chanson aussi ?
Oui, je l'écoute très souvent. Alors c'est très compliqué maintenant de l'écouter parce qu'elle est très liée à cette période, mais je ne la vois pas triste parce que pour moi c'est une chanson aussi quand même d'espérance, mais elle me serre encore plus le cœur.
Mon enfant.
Ton héritage, Benjamin Biolay. C'était donc, Frédéric, le choix de Nina Bouraoui.
Nina Bouraoui, dont le dernier roman, superbe, Grand Seigneur, vient de paraître chez Jean-Claude Lattès.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
On parle archéologie aujourd'hui avec
oui,
vous.
Oui, on va évoquer les objets trouvés dans la Seine de la préhistoire à nos jours.
À tout de suite.